RFI 7h42, en temps universel, tout de suite les sports. Avec vous Antoine Grenier, le football, les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 en zone Afrique, cinquième journée et un programme gargantuesque, 11 matchs ce vendredi.
Avec notamment celui des champions d'Afrique en titre, les Ivoiriens, dépassés provisoirement par le Gabon et en déplacement au Maroc pour y affronter le Burundi sur terrain neutre. Il faut une victoire aux éléphants pour retrouver la tête du groupe F et pour cela, il faut prendre le Burundi au sérieux, prévient Emers Faé, le sélectionneur ivoirien.
Quand on entend Burundi, on prend pas au sérieux. C'est vrai qu'on les avait joués en novembre 2024. Depuis, ils ont quand même pas mal progressé. C'est une équipe avec des joueurs plutôt de petits gabarits, qui sont très très vifs, très toniques, qui jouent avec vraiment beaucoup d'énergie, hein, et qui n'a pas peur justement de jouer, de ressortir le ballon de derrière. Donc oui, on a déjà analysé notre adversaire et comme nous sommes les champion d'Afrique en titre. C'est clair que toutes les équipes veulent nous battre et toutes les équipes jouent différemment quand elles jouent contre nous. Donc pour nous, la Côte d'Ivoire, il n'y a vraiment plus aucun match à négliger. Et ce match-là, on va le préparer vraiment comme si c'était une finale et tout faire pour gagner ce match, pour garder la tête du groupe et sortir de cette trêve internationale, au moins avec notre point d'avance qu'on a sur le Gabon.
Emers Faé avec Molamine Sissavané, Burundi-Côte d'Ivoire à Meknès, coup d'envoi 19h temps universel en même temps que Ghana-Tchad.
Une journée qui débute à 13h temps universel.
Avec Botswana, Algérie et Guinée équatoriale, Sao Tomé. À 16h TU, Rwanda, Nigeria, Afrique du Sud, Lesotho, Burkina, Djibouti et la RDC reçoit le Soudan du Sud. Victoire nécessaire pour les Léopards. Un vendredi qui s'achèvera avec trois rencontres. Éthiopie, Égypte et Guinée-Somalie à 21h TU et Niger-Maroc qui débutera une demi-heure plus tard.
Hier, 9 rencontres étaient à l'agenda et bonne opération signée par le Mali.
Les Aigles, vainqueurs des Comores 3-0 pour se relancer dans un groupe I où il restait sur 3 matchs sans victoire. Bon résultat également pour le Gabon, vainqueur des Seychelles 3-0. Le Cap-Vert n'impressionne pas, mais le succès sur le fil 1-0 face à l'île Maurice permet aux Requins Bleus de pointer en tête du groupe D devant le Cameroun et la Libye qui, pour la première d'Aliou Cissé, a concédé le nul un partout face à l'Angola. Les autres résultats, victoire du Mozambique 3-1 sur l'Ouganda, la Namibie domine le Malawi 1-0, match nul entre le Zimbabwe et le Bénin 2 partout, nul également 3 partout entre la Gambie et le Kenya. Enfin, la Sierra Leone l'emporte 3-1 sur la Guinée-Bissau.
On termine avec la nouvelle ère qui s'ouvre au Comité international olympique avec l'élection de la Zimbabwéenne Kirsty Coventry à la tête de l'instance.
L'ancienne championne olympique de natation, 41 ans, a remporté le scrutin dès le premier tour hier. Première femme, première africaine à la tête du CIO, Coventry symbolise le nouveau visage de l'olympisme. Une arrivée saluée partout en Afrique, notamment par le Camerounais Ahmad Kalkaba Malboum. Le président du Comité national olympique camerounais prévient cependant, même avec une africaine à la tête du CIO, le continent doit continuer à travailler pour se faire une place.
Je me réjouis de cette élection et je la félicite, c'est bien mérité. C'est le tour de l'Afrique aussi maintenant, mais sa présence à la tête du Comité international olympique ne va pas faciliter la tenue des Jeux olympiques en Afrique. L'Afrique mérite d'accueillir les Jeux olympiques. En 2026, l'Afrique va faire son premier test avec les Jeux olympiques de la jeunesse. Ce n'est pas par faveur que Christy va donner les Jeux olympiques à l'Afrique, mais c'est quand l'Afrique présentera des candidatures qui méritent de donner un plus au spectacle olympique qui coûte cher.
Ahmad Kalkaba Malboum avec Joël Waden.
Merci Antoine Grenier.
RFI, toute l'actualité, Julien Coquel-Roel.
À la une, l'un des 5 principaux aéroports du monde à l'arrêt complet jusqu'à ce soir. L'aéroport de Londres Heathrow, fermé jusqu'à minuit en raison d'un incendie, est d'une coupure de courant. Il accueille en temps normal plus de 1300 vols par jour. Lui dénonce une décision dans l'intérêt personnel de Benjamin Netanyahou. La réaction de Ronen Bar à son limogeage voté hier par le gouvernement israélien. Le chef du Shin Bet, les renseignements intérieurs israéliens, évincés alors que ses services mènent des enquêtes, notamment sur les événements qui ont conduit au 7 octobre. L'annonce dimanche de sa future révocation avait déjà provoqué la colère. Des manifestations ont eu lieu hier soir en Israël, alors que dans le même temps, une rare critique d'Isaac Herzog contre son premier ministre, le président israélien, se dit troublé par la reprise des combats dans la bande de Gaza. Et puis la promesse tenue de Donald Trump aux États-Unis. Le président américain a signé hier un décret visant à démanteler le ministère de l'Éducation, cible de choix de la droite américaine qui lui reproche ses politiques liées à la diversité. Et jusqu'à dimanche, dans notre reportage Afrique, on pose nos valises à Berberati, la troisième plus grande ville de Centrafrique, dans le sud-ouest du pays. 100 000 habitants, des mines de diamants Et comme ailleurs en Centrafrique, le souvenir et les séquelles des violences de ces 10 dernières années. Comment relancer l'éducation sur place, faire revenir à l'école des enfants non scolarisés ou très peu pour compléter leurs études primaires? C'est la question qu'on se pose ce matin et l'enjeu du projet Éducation pour tous. Il a été lancé mercredi par l'Agence française de développement, 4 ONG et le ministère de l'Éducation nationale. Reportage Rolf Steph Domialeux.
10h à l'école d'application préfectorale de Berberati. Ce matin, les élèves du cours moyen 1 entendent un chant qui prône les vertus de la discipline scolaire. Un sourire sur le visage, Caleb, 12 ans, est heureux de revenir sur les bancs de l'école.
Je suis content de revenir à l'école après les multiples sensibilisations. J'avais arrêté pour me consacrer aux activités diamantifères. Je faisais ce travail pour soutenir ma famille. Maintenant, je dois me concentrer sur l'éducation.
La cour de l'école grouille de monde à 7h de la journée, contrairement à d'habitude où le silence règne à l'heure des cours. Comme Justine, plusieurs élèves font leur retour après avoir été convaincus du rôle crucial de l'école.
Par exemple,
prenons mon exemple. Auparavant, je ne voyais pas l'importance de l'école. Dans notre région, beaucoup de filles sont forcées de se consacrer aux activités ménagères et champêtres sans être payées. Nous avons été sensibilisés par les ONG sur l'importance de l'école comme un levier de développement pour notre localité.
5 sous-préfectures de la République centrafricaine sont concernées par le projet. Berberati Gomboula, Susuna Kombo, Dédé Mokouba et Carnot. Bruno Fouché est ambassadeur de France en Centrafrique.
Un programme important parce qu'il va toucher au global 21 500 élèves, 50 écoles, tout ceci dans 5 sous-préfectures et il va durer 2 ans, puisqu'au total, le coût du programme sera de 13 millions d'euros.
13 millions d'euros, soit plus de 8 milliards de francs CFA. Ce projet est mis en œuvre par les ONG Merci Corps, Alima, FinChurch Aid et l'Organisation des femmes centrafricaines OFCA. Marcel Diangdamba est le représentant de l'ONG FinChurch Aid.
Les 4 ONG vont procéder à la construction des salles de classe, la réhabilitation également des salles de classe. On aura la construction des forages dans ces écoles. Nous allons également procéder à la construction des latrines, la construction et l'appui même des centres de santé en disponibilisant les pharmacies dans des écoles pour la prise en charge médicale à travers l'ONG Alima.
Le projet Éducation pour tous prendra également en compte la formation des enseignants et le développement des activités génératrices de revenus. Le ministère de l'Éducation salue le programme et demande sa pérennisation dans toutes les régions du pays. Rolf Estef Domialeux, de retour de Berberati, RFI.
Notre reportage en Centrafrique à retrouver sur RFI.fr et notre application Pure Radio.
RFI Matin.
Et dans Afrique Économie, ce matin, reportage au Cameroun. 8 ans après le début d'une lutte armée entre les groupes séparatistes anglophones et les forces gouvernementales de Yaoundé, la violence reste une réalité. Dans les 2 régions à majorité anglophone du pays, le nord-ouest et le sud-ouest, il n'y a plus de front à proprement parler, mais des zones d'insécurité, des armes qui circulent. Les civils sont les premières victimes et les conséquences sont aussi économiques sur la vie quotidienne des habitants. Afrique Économie, à Boya, Amélie Tulet, avec Alphonse Tebek.
Sur la route de Boya, en partant de Douala, une fois passé le fleuve Mungo, Salim constate à quel point le paysage a changé.
Avant la crise, juste quand on finissait de traverser les champs d'EBA, on avait des vastes étendues de plantations de bananes plantains, entretenues et exploitées par la CDC, Cameroun Development Company. Mais depuis la crise, les séparatistes ont empêché les travailleurs d'aller aux champs et puis tout est allé en ruine. C'est triste.
Une fois à Boya, aux heures de pointe, sur l'axe principal qui traverse la ville, les conducteurs de taxi ont dû s'habituer aux embouteillages. Avec l'afflux de déplacés, en moins de 3 ans, la population a doublé.
Nous trouvons difficile de circuler comme nous le faisions il y a 6 ou 7 ans.
On se trouve confronté à des défis comme la surconsommation d'essence dans les embouteillages. C'est vraiment le premier problème. Le temps est perdu, c'est dur. Il y a du travail, oui, mais ça va trop lentement à cause du monde. La population a augmenté, mais il n'y a pas assez de routes.
Une croissance rapide qui se fait sentir aussi dans le quotidien de cet agent immobilier.
For instance, people living in remote areas in Kumba.
Les habitants des zones reculées de Kumba et de Bamenda viennent ici dans la zone verte de Boya. Ça pousse les propriétaires à augmenter les prix. La demande est supérieure à l'offre. Ça affecte les plus pauvres. Certains, pour s'en sortir, cotisent et se mettent à 5 dans une seule chambre.
En journée, Boya est une ville commerçante animée. Le soir, de nombreux bars sont ouverts. Malgré cet apparent retour à la normale, les Ghost Town Mondays, les lundis villes mortes, décrétés par les groupes armés, continuent d'être respectés par une partie des habitants. Je fais des yaourts et je les vends. Le lundi, les affaires tournent au ralenti. Comme ces journées villes mortes, les gens restent chez eux, ils ne viennent pas au marché. Ça fait baisser mes revenus. Ça affecte mon foyer. Parfois, je n'ai plus d'argent pour le lendemain pour envoyer mon fils à l'école. Vous savez, quand c'est lundi villes mortes, chacun pense d'abord à sa survie. Alors tout le monde reste à l'intérieur. En dehors des agglomérations, sur les axes qu'ils contrôlent, les groupes armés continuent de prélever sur les habitants des taxes. Taxes sur les personnes, les marchandises, jusqu'au corps des défunts qu'il faut enterrer au village. Alphonse Tebek, Amélie Tulé, de retour de Boya, RFI.
Afrique Économie au Cameroun, et bientôt 8h en temps universel comme chaque jour. RFI Matin se termine en musique. Déjà envoûté par le trio féminin Ensemble Tchakam pour la sortie de l'album Les Vents Brûlants. Bonjour Laurence Alloire.
Bonjour Julien Coquel-Rohem.
Je parle doucement parce que c'est l'ambiance de ce matin. L'Ensemble Tchakam nous transporte dans l'une des civilisations les plus anciennes du monde, l'Iran.
Oui, on peut dire la Perse aussi, mais ça c'était avant. Alors il se trouve que cet ensemble est composé de 3 musiciennes basées en France qui se déplacent sur 3 territoires, l'Iran, la France et la Palestine. Segol Misahir joue du tar, Marie-Suzanne Deloye de la viole de gambe et Christine Zayed du hanoun. Elle chante aussi.
Mais ce ne sont pas des instruments courants.
Pas de ce côté-ci du monde, mais le tar, vous savez, c'est un grand luth avec un corps en forme de double cœur. Waouh ! Tar, ça signifie corde en farsi. Le hanoun, c'est une sorte de sitar sur table ou sur les genoux si on a envie. Et la viole de gambe, comment vous dire ? Ça serait une sorte d'arrière-grand-mère du violoncelle, très embottée au 15e siècle en Europe, idéale pour jouer de la musique baroque.
Et comment fonctionne ce trio à cordes avec des esthétiques si différentes ?
Segol Mirzayi nous raconte la genèse de l'ensemble Tchakram.
L'idée, c'était pas vraiment de préserver quelque chose ou de figer une tradition. C'était justement de comment on conçoit, en fait, aujourd'hui, en tant que musicienne, en tant que compositrice, nos musiques. Donc, l'idée, c'est pas de s'éloigner du radif ou de makam, mais c'est de dire, en fait, c'est quoi notre marque, c'est quoi notre plume, de pouvoir créer un langage en commun avec nos différences. على الفقد أكثر فلا يعقل أن يستحيل الكون ظلاما علي أن أدرب قلبي على الفقد أكثر.
L'ensemble Tchakram est composé d'érudites.
Oui, oui, conservatoire, musicologue. En plus, elles sont jeunes. Christine a à peine 30 ans, ce qui est rassurant quand même pour l'espérance de vie ou de survie. Ça, c'est moins drôle, de certaines cultures.
Et d'où vient le titre de l'album Les Vents Brûlants ?
Alors ça, c'est un poème qui a été écrit par Segol Mirzayi, la joueuse de tar, qui résume en fait tout l'esprit du disque. Il ne vous aura pas échappé, Julien, que 2 de ces jeunes femmes sont originaires d'Iran et de Palestine. Et en tant qu'artiste, c'est presque un devoir de penser les plaies et de penser la suite. Segol va vous réciter le poème « Vent brûlant ».
J'ai vu les oiseaux et les étoiles reposer sous terre, là où les jacinthes et les coquelicots ne meurent jamais. Le cri des sabots enfonçait le sable, et la grenade partagée dispersait ses larmes. Dans l'aube des regards, un faucon irisé se levait de ses flammes et déposait au creux de nos mains les vents brûlants. Oui, on parle des oiseaux et des étoiles qui reposent sous terre, donc ça parle de la Palestine, ça parle de l'Iran. Bah, tous les gens qui se reposent maintenant sous terre, ils étaient des oiseaux libres, ils étaient des étoiles, et Coquelicot, c'est le symbole de la Palestine et les jacinthes, symbole de l'Iran. C'est des fleurs qui sont en Iran. Quand on dit que les jacinthes et les coquelicots ne meurent jamais. On peut tuer tout ce qu'on veut, mais en fait, on ne peut pas tuer l'âme de ces pays.
Choix musical et un trio à retrouver, vous avez de la chance, demain dans Musique du Monde justement, une belle session live avec vous Laurence Alloir à 20h10 temps universel.
Et seront en concert en France à partir du 27 mars à la 15e édition du festival Détour de Babel à Grenoble et le 2 avril au Consulat, c'est à Paris. Le morceau que vous entendez, ça s'appelle Le Chameau Ivre. Ce chameau n'est pas ivre ivre, il est ivre de colère.
Voilà, on en tire toutes les conséquences. Merci beaucoup, Laurence Alloir.
Oh, j'ai vu votre voisin, oui, Monsieur Gomez.
Juan Gomez est là, parce qu'RFI Matin se termine pour aujourd'hui. Je remercie Jean-Pierre Pellon à la réalisation. Et donc, dans un peu plus de 10 minutes, vous avez rendez-vous avec Juan Gomez. Bonjour, Juan.
Bonjour, Laurence Alloir. Bonjour, Julien Coquadroem.
Et au programme d'appel sur l'actualité.
Eh bien, nous commencerons évidemment avec les questions sur l'actualité et les réponses de la rédaction. Ce matin, on nous interpelle sur la rencontre surprise entre le président Tshisekedi et Kagame à Doha. Des questions également sur ces deux astronautes américains revenus sur Terre mardi soir après 9 mois, Laurence Alloir, bloqués dans l'espace.
Ils doivent avoir mal au dos.
Voilà un aperçu des 30 prochaines minutes. Julien Coquelroen, je vous souhaite une belle journée.
À vous aussi.
Vous revenez évidemment demain
avec
dans la matinale de RFI. Reste avec nous dans tout juste une minute, le journal.
Priorité santé. Laurence Garcia vous invite à poser vos questions sur le thème d'aujourd'hui.
Dans Questions de femmes, on attend vos témoignages sur la souffrance liée au travail. Harcèlement, burn-out, charge mentale, on vous répond sans tabou.
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité santé avec Sono Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.
Camino Real et RFI Talent présentent Tamayo avec The Paris Latin Orchestra en concert. Retrouvez les gardiens de la scène salsa parisienne sur la scène du Romeo Club à Paris le 27 mars à partir de 19h.
Sin limite, la salsa sigue.
Plus d'infos sur la page Instagram Tamayo Musique.